Let's speak about taxes. I have been a CEO myself, and I always told to my team, don't try to be too smart. Pay taxes where you have to pay taxes. Don't go to heaven. Don't be too smart with taxes.
Paye taxes, c'est un Français qui parle évidemment, le commissaire européen Thierry Breton. Il fait la leçon. Moi aussi, j'ai été PDG. J'ai toujours dit à mes équipes, payez les impôts là où vous les devez. N'allez pas chercher un paradis fiscal. Ne faites pas trop les malins avec les impôts. C'est une vidéoconférence. Et à qui s'adresse-t-il, Thierry Breton? Un énorme boss, justement. Celui de Facebook, Mark Zuckerberg. Oui, l'Europe menace. Oui, elle hausse le ton. C'est nouveau. Sur la concurrence, sur les fake news, sur les discours de haine aussi. Bruxelles est en train de préparer une grande loi sur le numérique pour la fin de l'année. On imagine les lobbies et les avocats des GAFA en ébullition. Ce n'est pas nous qui devons nous adapter à vous, c'est le contraire, lance Thierry Breton. Bon, ça serait aussi le minimum, hein, et ça n'est pas gagné. The end of the day, comme dit le commissaire, pour les études, pour le travail, pour les relations sociales, nous sommes dépendants de ces géants américains. On vient de le voir avec le confinement. Et à regarder cette vidéo, on se pose la question. Le rapport de force est-il vraiment en train de changer? Pay taxes, don't be too smart. Vous savez ce qu'il a répondu, Mark Zuckerberg, sur les impôts? Rien. Pas un glups, pas un battement de cils, pas un mot, rien. Comme s'il avait eu l'image de Bruxelles, mais pas le son.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
En tout cas, cette vidéoconférence, elle était drôlement intéressante, organisée par le think tank de la régulation qui s'appelle CERE, CE2RE. C'était aussi un moment inédit, un dialogue entre ces deux-là. Vous pouvez trouver la vidéo sur Internet. Bienvenue, c'est le Mageco grand format. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec Koye Nguyen, le réalisateur, Maud Ventura, l'attaché de production, Jean-Baptiste Audibert signe la programmation musicale et Julien Dumont nous accompagne à la technique. Bonjour à vous les débatteurs, Christian Chavagneux d'Alternatives économiques, êtes-vous là?
Oui, je suis là, bonjour à tous.
Bonjour, et bonjour Emmanuel Lechypre de BFM Business.
Bonjour à tous.
Vous êtes là aussi, très bien. La discussion, notre discussion cette semaine, c'est Renault et l'industrie automobile, l'État appelé au secours, mais jusqu'où et pourquoi faire? Auditrice, auditeur, le standard est déjà ouvert. On a Théo et Bianca qui attendent vos appels, vos questions, vos interpellations au 01 45 24 7000. Et puis comme tous les samedis, le rendez-vous média, Sonia De Villers sera avec nous dans une demi-heure. Son invité, c'est Takis Candilis, le directeur général de France Télévisions. Mais tout de suite, il y a donc débat. Sauver l'auto, pourquoi et à quel prix?
Mai 2020.
Renault, symbole d'un secteur automobile qui prend la crise de plein fouet.
Avec la crise du coronavirus, le marché automobile s'est effondré.
Plan social de grande ampleur redouté chez Renault.
Trois sites apparemment menacés. Et puis un site emblématique de la firme, Flin, dans les Yvelines, pourrait ne plus produire de voitures.
Si on ferme quatre sites sur le sol français,
Franck Daout,
autant faire une croise sur toute la manufacturing de Renault en France.
Délégué syndical central CFDT, Renault.
Dans le sens où un des sites qui est nommé le site de Flin, c'est le site aujourd'hui qui travaille pratiquement le plus. C'est là où sont fabriquées les Zoé, c'est là où se dessine l'avenir de Renault, en particulier sur les normes. Je vois pas du tout où seraient faites les Zoé dans ce cadre-là. Ce n'est qu'un exemple, mais pour les autres sites, c'est la même chose.
L'État doit-il faire pression sur Renault au nom des 15% qu'il détient dans le groupe, des aides déjà versées pour financer le chômage partiel et du prêt de 5 milliards d'euros garantis par l'État que le groupe doit toucher? La question enflamme la classe politique.
La contrepartie, elle doit être claire.
Aurélien Pradier.
Si l'État, si les fonds publics interviennent à des hauteurs aussi importantes pour soutenir une entreprise comme Renault, il faut que Renault maintienne des activités dans notre pays.
Secrétaire général de LR.
Dans cette période-là où l'enjeu d'industrialisation est majeur pour notre nation, on ne peut pas continuer à perdre des usines.
Nous serons
Édouard Philippe,
extrêmement attachés,
Premier ministre,
intransigeant même, je dirais, à la préservation du site France, des sites France. Renault est une entreprise mondiale, c'est vrai, mais enfin sa marque française est évidente, et donc nous serons extrêmement exigeants sur ce point. Nous serons extrêmement attachés à la qualité du dialogue et de l'accompagnement social.
Il faut agir par la loi.
Fabien Gay.
Madame la ministre, aurez-vous le courage politique d'interdire les licenciements, comme en Espagne, pour éviter le massacre social?
Sénateur PCF de Seine-Saint-Denis.
Comment accepter qu'Air France et Renault aient bénéficié de milliards de prêts et envisagent aujourd'hui des licenciements? Pourquoi avez-vous refusé, comme nous l'avons proposé, de conditionner ces aides et ces prêts à des critères sociaux et environnementaux.
Vous posez la question de l'interdiction des licenciements.
Muriel Pénicaud,
toutes les études,
ministre du Travail,
et toutes les expériences qui ont été faites dans le temps en France et dans d'autres pays ont montré que sur le moyen terme, c'est une machine anti-emploi.
C'est toute l'industrie automobile mondiale qui est en crise, mais cette semaine donc en France, c'est Renault qui a fait l'actualité, prêt à fermer des sites, peut-être même en effet cette usine de Flins. On saura vendredi prochain, la direction présentera son plan. En attendant, Renault qui fermerait des usines, Christian Chavagneux, ça vous choque cette annonce ?
En tout cas, malheureusement, c'est pas une surprise. Hein. On sait que Renault, c'est une entreprise qui était déjà en difficulté avant l'épidémie. Hein. Elle a annoncé des pertes l'année dernière, en 2019. C'est un petit producteur. Hein. Avec PSA, ils sont quoi, 9e, 10e producteur mondial. Ils sont loin derrière les géants du secteur. Et c'est une entreprise qui a besoin d'innover et de manière très importante, parce que la France a dit qu'elle interdirait, par exemple, les voitures thermiques en 2040. Paris et Strasbourg ont dit plus de diesel dans nos villes en 2025. On a un renforcement cette année des normes anti-pollution sur les voitures qui est quand même assez drastique, donc il y a besoin d'investissements très importants, et vous avez une entreprise qui est dans une situation dégradée et qui là va voir sa dette exploser. Et donc pour essayer de préserver ses comptes, elle fait des coupes, donc elle coupe des emplois en Slovénie, en Corée du Sud, en Russie, en Chine, et là elle nous annonce peut-être aussi des coupes en France. Malheureusement, c'est une vieille Renault est une vieille entreprise dans un vieux secteur sinistré. Le problème, c'est que l'ensemble des constructeurs français ont à peu près 200 000 emplois. Si vous avez si vous prenez les garagistes, les assureurs, les sous-traitants, etc., tous ceux qui travaillent pour le secteur de la voiture, d'après les chiffres du syndicat de la voiture, vous avez 2 millions de personnes. Et donc, le point clé, c'est sauvegarder les emplois, mais pas forcément dans la voiture, parce que je pense pas que ce secteur ait un avenir.
Emmanuel Lechypre, est-ce que c'est aussi votre vision ? Est-ce que cette annonce, finalement, c'est pas une surprise ? Renault, ce que nous dit Christian, et je sais qu'il le pense, c'est que c'est un dinosaure, et que en fait le sujet, ça va être de faire basculer les gens vers d'autres pans de la filière. Voilà, il y avait tout ça dans ce que nous a dit Christian.
C'est vrai que si on remet cette crise en perspective, on a une industrie automobile qui traverse la plus grave crise de son histoire. Ça touche tous les constructeurs. Et dans ce contexte, Renault était en proie déjà à une crise qu'on voyait poindre avant même la fin des années Ghosn. C'est une entreprise qui était lancée dans une course au volume de production pour essayer avec Nissan et Mitsubishi de devenir le premier constructeur mondial. Mais ça s'est fait au détriment de la qualité. Il y avait des tensions entre Renault, son actionnaire principal, l'État, les partenaires japonais. Il y a eu l'échec du rapprochement avec Fiat Chrysler. En 2019, on a eu les premières pertes depuis 10 ans, donc on voyait bien que l'entreprise était en difficulté. Alors, est-ce que Renault est un dinosaure ? En fait, Renault, elle est comme tous ces constructeurs automobiles dans une industrie qui est quand même assez cyclique, ont connu des graves difficultés. Et ce qui est quand même fascinant, c'est de voir que tous les grands constructeurs automobiles qui ont eu d'énormes difficultés, dont la survie était en jeu depuis 30 ans, tous ont réussi quand même parfois des redressements spectaculaires. Prenez PSA par exemple, l'état de Peugeot Citroën en 2013, l'état est même obligé d'intervenir dans cette entreprise privée, et PSA aujourd'hui a quand même réussi un redressement spectaculaire. Volkswagen, premier constructeur mondial avec Toyota, au début des années 90, était quasiment à l'agonie. Donc dinosaure, je sais pas, mais mauvaise passe, oui, incontestablement, aggravé par un management défaillant, beaucoup d'échecs de stratégie, trop de modèles, trop compliqués, etc. Donc il y a énormément à faire pour sauver Renault, mais Renault peut parfaitement être sauvé, et de toute façon l'État ne laissera jamais tomber Renault.
Parce que c'est un symbole ? Pourquoi est-ce que vous dites ça ? Pourquoi l'État ne laissera jamais tomber Renault ?
Quand vous voyez, si vous voulez, que déjà, quand PSA était mal en point, l'État n'a pas hésité à intervenir pour sauver cette entreprise privée, et lui permettre de redémarrer. Comment voulez-vous que l'État, qui est actionnaire à 15% à hauteur de Renault, laisse tomber cette entreprise ? La véritable question, c'est pour faire quoi ? Christian a raison. On voit bien que le contexte impose aujourd'hui des restructurations. Mais pour faire quoi? Est-ce que c'est, alors après on voit le jeu politique classique, voilà, tout le monde est dans son rôle, on défend le site France, etc. Bon, d'accord, la réalité c'est que Renault n'a pas l'intention de fermer Flin. Renault est confronté à un problème qui est que Flin produit des Zoé mais n'en produit pas assez pour toute la France, qu'une autre partie de ces Zoé est produite à l'usine de Douai qui tourne elle en sous-régime, et donc l'idée rationnelle ça aurait été de concentrer la production des Zoé à Douai et de faire autre chose à Flin. C'est ça qui est sur la table aujourd'hui. Renault n'a pas fondamentalement aujourd'hui l'intention de fermer Flin, mais il faut l'aider à se restructurer. Sinon, c'est fini. Il y a tous les défis que Christian a évoqués, l'électrique, etc. Si on permet pas à Renault de se remuscler dans ce monde-là, eh ben oui, ça effectivement, ce sera compliqué.
Christian Chavagneux, là évidemment, Emmanuel souligne que l'État est actionnaire à 15%, l'État qui est aussi prêt à mettre un prêt de 5 milliards sur la table, l'État qui a accordé le chômage partiel. On a bien entendu le débat politique sur il faut plus de conditions, il faut préserver l'emploi. Comment vous le prenez, vous, ce débat? Est-ce que il a du sens selon vous? En tout cas, il parle beaucoup aux Français.
Oui, bien sûr qu'il a du sens, mais je pense qu'il y a deux dimensions temporelles. Il y a le débat de court terme. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour essayer de sauvegarder le plus les emplois? Et la question que vous posez, en fait, c'est celle des contreparties à la garantie du prêt par l'État que peut recevoir Renault. À minima, ne pas verser de dividendes, mais ça, Renault l'avait déjà annoncé. Les débats qui sont aujourd'hui sur la table, c'est en termes de localisation. Mais quand vous regardez les 15 modèles les plus vendus en France, à la fois par Renault et par PSA, vous apercevez que la moitié est déjà produit hors de France. En fait, depuis 2005, la production en France a été divisée par deux. Donc vous êtes dans une industrie qui fait la course aux coûts les plus bas, et ce qui les pousse à largement délocaliser. Donc moi, je suis pas très très optimiste sur la possibilité, sur le moyen long terme, de pouvoir remettre en France des usines de production de voitures qui étaient sorties. Les voitures électriques, alors évidemment, PSA les font pratiquement en totalité à l'étranger. Renault, non, Emmanuel a bien fait le bilan. Ça me paraît très très difficile de dire à Renault, vous allez produire des millions et des millions de voitures électriques en France. Pourquoi? Parce que je pense que là, quand on se projette à moyen long terme, on est face à un secteur qui est complètement dépassé. La voiture individuelle, c'est une industrie du début du XXe siècle. Ça a un siècle. C'est cher, c'est dangereux. C'est polluant, c'est cher. On a la dernière enquête de l'INSEE nous dit que c'est pratiquement 20% des dépenses des ménages. 20%, c'est énorme. Et sauf à Paris, l'essentiel c'est le coût de la voiture. Dangereux. Alors c'est vrai que j'ai été regarder les stats, j'étais impressionné par le fait que le nombre de morts par kilomètre parcouru depuis le début des années 70 en France a complètement chuté. Sauf que ça fait à peu près une petite dizaine d'années qu'on n'arrive pas à passer sous les 3000 morts par an. On va peut-être y arriver cette année. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu utiliser notre voiture. C'est vraiment un moyen de transport dangereux. Bon, polluant, j'ai pas besoin de vous refaire le dessin. On le connaît. Mais le problème, c'est donc la gestion de l'emploi à 20-30 ans. On est dans un secteur sinistré qui est amené, dans les grands pays industrialisés en tout cas, parce que c'est vrai que dans les émergents, la voiture individuelle va peut-être continuer à se développer. Mais je pense que dans les grands pays industrialisés, on est sur un schéma où la voiture individuel, c'est un secteur complètement dépassé. Qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de 2 millions de personnes qui travaillent pour le secteur automobile. Qu'est-ce qu'on fait? Et à un horizon de 20-30 ans, et moi je souhaiterais que la condition que pose le gouvernement, c'est d'avoir une gestion prévisionnelle de l'emploi, du secteur, de la filière à 20 ans. Malheureusement, l'échéance du politique est pas celle de la réflexion stratégique d'un secteur en perdition, donc je pense pas qu'on aura ça, mais je pense que ça aurait été ça les bonnes contreparties auprès.
Donc en fait, si je vous comprends bien, vous, Christian, vous dites il y a pas de condition. En effet, ça ne fait pas sens de conditionner les aides au maintien de l'emploi au même niveau sur les mêmes sites, mais plutôt de gérer l'emploi. C'est ça que vous dites, de gérer l'emploi de façon plus longue.
Oui, ça fait complètement sens, mais ça va être difficile. Ça va être difficile. Mais ça fait sens politiquement, bien évidemment, mais économiquement, stratégiquement,
socialement,
à mettre en œuvre. Et socialement, bien sûr que ça fait sens, mais moi je préférerais que plutôt que de dire on va produire des biens qui d'ici 10 ans, 20 ans vont être complètement dépassés, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder ces emplois, en France, mais pour faire autre chose, parce qu'on est dans un secteur sinistré à 20-30 ans.
Emmanuel Le Chypre, sur ce qu'on a entendu dans le zapping sonore, les interdictions de licenciement, dire on vous aide, mais on vous interdisait de licencier, est-ce que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Est-ce que ce donnant-donnant-là a du sens pour vous?
Bah non, il a pas de sens, parce que c'est exactement les mêmes arguments presque que ce qu'a dit Christian. C'est-à-dire qu'il y a des tendances lourdes, majeures, structurelles, au-delà de la crise à court terme, qui font que cette industrie automobile, elle a besoin de se moderniser et de revoir complètement son process, son schéma industriel et la place qu'elle occupe dans toute la chaîne de la mobilité. On va bien au-delà d'une crise ponctuelle. S'il n'y avait que la crise Covid-19 qui a fait chuter les immatriculations de 80%, et ce serait une mauvaise passe à passer. Pourquoi pas exiger en contrepartie d'aide de sauvegarder les emplois? Mais on voit bien que l'enjeu, il va bien au-delà. Et d'ailleurs, si vous écoutez bien votre zapping, on voit bien qu'il y a une formidable ambiguïté subliminale entre des usines en France, etc., et pour que les gens entendent la petite musique, de l'emploi en France. Mais de toute façon, la vérité, c'est que même les usines qui vont revenir en France, la production industrielle qui va revenir en France, elle sera beaucoup moins riche en emplois. Si on admet qu'effectivement l'avenir de l'industrie automobile en France, c'est la production de véhicules électriques, et il y a un marché qui est en train de monter, je veux dire, même pendant les 4 premiers mois par exemple de l'année où il y a eu cette crise du Covid où les ventes se sont effondrées, les ventes de voitures électriques ont continué à progresser de façon spectaculaire, et donc il est probable que sur ces technologies il y a un avenir en France, mais ce sont des voitures qui demandent beaucoup moins de main d'œuvre que les anciennes voitures thermiques. Donc Absolument. Il ne faut pas se leurrer. On aura peut-être des usines qui resteront en France. Mais de toute façon, la question de l'emploi, elle sera posée. Il faudra trouver d'autres emplois. Mais ça, après, c'est l'histoire millénaire de l'économie, des secteurs qui détruisent de l'emploi et d'autres qui en créent dans de nouvelles filières. Mais effectivement, pensons ces nouvelles filières plutôt que d'essayer de préserver un monde ancien qui est voué de toute façon à disparaître.
Christian Chavanu, encore un mot et puis on file au standard. Il y a Claude qui nous attend.
Allez-y, oui, Christian. Moi, c'est sur la voiture électrique. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir des voitures électriques que des voitures thermiques. Et en même temps, moi, j'ai été frappé. Je ne sais pas si vous avez vu cette note de l'Organisation internationale du travail qui est parue il y a 2-3 jours, qui nous propose plusieurs scénarios. Je vous en lis simplement deux. Si on double les investissements dans les transports publics, ça fait plus de 4,5 millions d'emplois dans le monde, dont 2 millions en Europe. Si on passe, ce qu'on n'arrivera pas à faire avant des dizaines d'années, à 50% de production de voitures électriques, alors c'est plus 4,5 millions d'emplois qu'on crée dans le monde, c'est 10 millions, mais seulement 1 million en Europe. Pourquoi ? Parce que la voiture électrique, c'est la prérogative des producteurs asiatiques. Donc la clé passer à la voiture électrique, c'est beaucoup mieux que la voiture thermique, mais si on veut vraiment créer des emplois, il vaut mieux doubler les investissements dans les transports publics, penser une autre mobilité plutôt que de tout miser sur la voiture.
Allez, Emmanuel, un mot.
Oui, non, parce que Christian nous annonce quand même la mort programmée de la voiture. N'oublions pas, et ça va être une question majeure, quel va être l'impact à long terme de cette crise de la Covid-19? Parce que les enquêtes qui sont faites en ce moment sur les citoyens dans tous les pays du monde vous montrent un retour d'engouement pour la voiture. Je vous cite une étude du BCG. Vous avez, par exemple, quand on demande aux gens quel est le principal critère aujourd'hui pour votre choix de mobilité, les gens répondent la distanciation physique et la propreté du véhicule. Vous avez 25% des Européens, 50% des Chinois qui souhaitent se déplacer davantage en voiture privée aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est une tendance qui va infléchir le retrait de l'automobile qu'on avait prévu, ou bien est-ce que ça n'est qu'une parenthèse et qu'on retrouvera finalement cette trajectoire que Christian nous annonce pour l'automobile? Mais enfin, en attendant, c'est un phénomène qui existe aujourd'hui.
On part au standard, comme promis. Claude, bonjour et merci beaucoup d'avoir patienté.
Bonjour madame et merci pour vos émissions. Alors ma question, elle est simple. Pourquoi l'État, qui garantit un prêt à Renault, qui ne sera jamais remboursé vraisemblablement, ne rentre-t-il pas directement dans le capital et une fois la situation assainie, revendra ses actions pour faire une opération capitalistique? Voilà.
Une excellente question. Alors Renault, il est déjà au capital à 15%, mais en effet, pourquoi est-ce qu'il ne montrait pas, Christian Chavagneux, votre analyse?
Oui, c'est vrai que Renault a déjà 15% du capital. Une des solutions d'ailleurs qui était envisagée dans le débat public, ce serait de dire on va la nationaliser un petit peu plus, si je puis dire, c'est-à-dire que l'État pourrait monter au capital. Ça coûte cher, hein, une garantie d'État, ça rentre pas dans la dette publique française. Là, ce serait des dépenses publiques un peu plus importantes. Alors, je suis pas sûr que la nationalisation rentre dans la dette publique, mais en tout cas, c'est des dépenses immédiates très très importantes dans un contexte où déjà le déficit déficit budgétaire va exploser. Donc je pense que le choix là fait par l'État, il a été financier. Est-ce que c'est un bon pari de se dire je vais acheter du Renault maintenant pour essayer de le revendre beaucoup plus cher dans combien de temps? Dans un an? Dans cinq ans? Dans dix ans? Si ce à quoi je pense, c'est-à-dire que c'est un secteur qui va vraiment pas bien, je suis pas sûr qu'on récupère ses billes. Si Emmanuel a raison et qu'avec le Covid, on va tous se jeter sur des voitures individuelles, alors oui, il faut le faire. Mais vous voyez que c'est un pari financier. Moi, je suis pas très très chaud pour que l'État fasse des paris financiers avec mes impôts.
On s'est quand même posé la même question, si je me souviens bien, avec les banques, hein, lors de la dernière crise, quand on les a aidés sans monter au capital. Emmanuel, c'était bien ça le sujet?
Oui, mais alors là, pour le coup, moi, je suis pas d'accord avec Christian. Autant je considère que la nationalisation telle qu'on l'envisageait dans les années 80, de façon un peu philosophique, quasi idéologique, c'est-à-dire un outil de production au service du peuple, etc., c'était les nationalisations Mitterrand. Moi, je pense que la nationalisation technique, comme la suggère notre auditeur, c'est-à-dire la nationalisation dans laquelle l'État entre au capital ponctuellement, dans une entreprise qui va mal, donc qui ne coûte pas cher, en fait, dont les actions ne coûtent pas cher, et qui, une fois l'entreprise redressée, ressort du capital et a préservé du coup l'outil industriel et l'emploi, comme ça a été le cas pour PSA, en général, l'État fait quand même de bonnes affaires. L'État investisseur, quand il achète des participations dans une boîte et qu'il les revend, bah, globalement, le bilan est positif. C'est un bon trader, l'État. Les traders de la République sont très bons, ils font gagner de l'argent aux contribuables. Donc moi, je suis pour la nationalisation technique, hein, temporaire, souvent, c'est assez profitable.
Renversement des fronts. On repart au standard. Nous avons Laurent en ligne, c'est bien ça? Bonjour, bienvenue Laurent.
Oui, bonjour, toujours Laurent, direct du balcon à Metz.
Écoutez, s'il fait beau chez vous, tant mieux, bah, pareil partout. Allez-y, il nous reste 5 minutes
donc,
là.
En fait, j'ai une double question. Donc la première, c'est, on sait que Renault-Nissan est un groupe mondial. Monsieur le maire a dit on donnera pas d'argent aux entreprises qui ont des participations ou des structures, des filiales dans les paradis fiscaux. Or, nos deux grands champions de l'industrie, je crois qu'ils ont un gros paquet de filiales, notamment en Hollande. Et la deuxième question, en ce qui concerne la participation de l'État, je dirais au financement ou à la participation industrielle, faut savoir que les lenders du Bade-Württemberg, notamment, ils ont pratiquement tous des participations financières dans les gros calibres que sont Mercedes et Porsche. Et le président du Land de Bavière et le ministère de l'économie se sont dit « BMW est tellement rentable, pourquoi est-ce qu'on nationaliserait pas BMW ?» Même les Allemands y pensent.
Okay.
Pourquoi pas nous ?
Alors ça, on vient quand même un peu d'y répondre, si vous êtes d'accord, Laurent. Mais en revanche, cette question du paradis fiscal, elle est évidemment en direction de Christian Chavagneux.
Oui, c'est vrai que Bruno Le Maire nous a annoncé ça, hein, en Belgique, dans plusieurs pays, on nous a dit on n'aidera pas les entreprises qui sont dans les paradis fiscaux. Bah, c'est normal, hein, puisque comment bénéficier de la solidarité si on contribue pas. Le problème, c'est le principe, évidemment, je le soutiens à 400%. Le problème, c'est comment est-ce qu'on passe du principe politique à la mise en pratique. On a une liste française, une liste européenne des paradis fiscaux qui est quasiment vide. Donc, ce qui a permis cette semaine à Lufthansa, le grand avionneur allemand, de dire, bah, regardez, moi, je vous fais la liste de toutes mes filiales et je suis très très peu présent dans les paradis fiscaux. En se référant à la liste européenne. Sauf que cette liste européenne, comme elle est quasiment vide, on peut montrer tout à fait facilement qu'on n'est pas présent dans les paradis fiscaux. Donc moi, la première chose à faire, ce serait de prendre une liste qui est complètement indépendante des lobbies des États et des lobbies privés. Par exemple, vous avez le Tax Justice Network qui vous fait une liste complètement indépendante. Vous pouvez regarder tous les critères, complètement objectifs. Et là, vous avez une liste magnifique des paradis fiscaux qui sont utilisés majoritairement par les entreprises. Derrière ça, prenez par exemple les 12 premiers paradis fiscaux de cette liste, et puis vous dites toutes les entreprises qui ont des filiales là, a priori, vous êtes suspectes. Alors, charge de la preuve renversée, vous pouvez très bien être présent en Hollande, au Luxembourg ou en Irlande pour faire du business. À l'entreprise de démontrer qu'elle est présente dans ces pays pour faire du business et pas pour transférer de manière artificielle ses profits. Donc oui, c'est sur le principe, c'est très très important. Maintenant, la mise en pratique, aujourd'hui, aucun des États qui ont annoncé le principe n'a été jusqu'à la mise en pratique concrète et opérationnelle.
Emmanuel Le Chypre, vous voulez réagir ?
Bah oui, parce que ce que dit Christian, c'est un peu la théorie, c'est les bons sentiments, mais la réalité à laquelle est confronté Bruno Le Maire, c'est quoi? C'est qu'au-delà même de ce prêt de 5 milliards, alors qu'on peut conditionner si on veut, Renault avait déjà besoin d'au moins 2 à 3 milliards de recapitalisation. Et donc qu'est-ce qui va se passer si l'actionnaire français les refuse? Eh ben c'est les partenaires japonais qui vont monter au capital. Mais si les partenaires japonais montent au capital, ça veut dire que Renault va perdre du pouvoir et que l'État français va perdre du pouvoir dans l'alliance. Et ça, Bruno Le Maire n'en veut pas. Donc, il y a effectivement les conditionnalités, mais il y a la réalité financière de l'État actionnaire. Et là, là-dessus, quand même, les marges de manœuvre, du coup, sont assez faibles.
On repart au standard. Michel est avec nous. C'est la dernière question. Allez-y, Michel. Bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour. Merci de prendre mon appel.
Question courte, s'il vous plaît.
Oui, ok. Je suis pas spécialiste de l'automobile, mais mon impression, c'est que l'alliance Renault-Nissan n'apporte pas grand-chose à Renault. C'est une impression. Ni du point de vue production, puisque les gammes ne se ressemblent pas du tout, ni du point de vue commercial, parce que j'ai pas l'impression que Nissan vende beaucoup de Renault en Asie. Donc, moi, je me dis qu'il vaudrait mieux casser le plus rapidement possible cette alliance avec Nissan, que toute l'équipe dirigeante de Renault, au lieu d'aller se balader au Japon, s'occupe des affaires de Renault. Et dernière suggestion, constituer en Europe un groupe de taille mondiale avec, bien sûr, Peugeot et Fiat. Ça me paraîtrait beaucoup, beaucoup plus efficace. Voilà ma question.
Vous voudriez que dans le même groupe, il y ait Renault, Peugeot, Fiat, c'est ça? Je vous comprends bien?
Ah oui, ça fait un constructeur européen qui aurait une dimension capable, comme vous le disiez tout à l'heure, d'investir dans de nouvelles technologies.
Le Japon, est-ce que cette alliance avec Nissan, elle est profitable à Renault, Emmanuel Le Chypre? Est-ce qu'il faudrait pas...
Alors c'est vrai que cette alliance, elle ne tient pas toutes ses promesses en termes de synergie, parce qu'il y a eu aussi des problèmes de confiance et de management qui font que le travail n'est pas optimal entre les entreprises. Après, rapprocher Renault, PSA, Fiat, il faudra quand même que Bruno Le Maire nous explique pourquoi il a refusé que Renault se rapproche de Fiat alors qu'il en est actionnaire. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est un problème. Et puis rappelons quand même cette situation totalement aberrante, c'est que je vous rappelle quand même qu'au moment où se décide l'avenir de Renault, Renault n'a toujours pas de patron opérationnel. Puisque le successeur de Carlos Ghosn, Luca de Meo, lui, n'arrivera que le 1er juillet. Alors je veux bien qu'il soit peut-être derrière à la manœuvre. Mais enfin concrètement, c'est compliqué aujourd'hui de discuter avec l'État quand le patron n'est pas encore là et que les plans de restructuration se font manifestement avant qu'il arrive.
Allez, merci pour ce débat sur Renault, l'industrie automobile. Je vous propose, comme tous les samedis, d'aller voir l'économie comme elle tourne ailleurs. Et là, on parle d'un état central pour la planète éco, direction plein Est. À Pékin, il y a du nouveau. Bonjour Dominique André.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes la correspondante permanente de France Inter en Chine. Donc hier, Dominique, on a eu le discours du Premier ministre chinois et on a compris combien le choc économique est brutal, profondément déstabilisant, parce que, contrairement à son habitude, le pays ne se donne même plus d'objectifs de croissance.
Alors c'est quelque chose de très inhabituel en effet, parce que depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis que la Chine a commencé à publier des prévisions économiques, le régime chinois a toujours annoncé ses prévisions en matière de croissance, même quand la Chine est passée d'une croissance de 2 à un chiffre, ce qui avait déjà été un petit traumatisme. Mais hier, le Premier ministre n'a pas voulu prendre le risque de s'engager publiquement sur des prévisions en 2020. Il a quand même admis que la croissance avait été négative au premier trimestre. Vous vous souvenez que le PIB chinois était tombé à moins 6,8%. Tout ça, c'est donc bien le signe que la Chine est dans une période de grande incertitude. Le Premier ministre a bien parlé de facteurs difficiles à prévoir. La situation, en fait, est très incertaine sur le plan de l'épidémie, même si elle est jugulée en Chine. La situation est très fragile et on voit bien que la pandémie n'est pas finie dans le reste du monde. Donc tout ça, évidemment, pose un problème pour les échanges commerciaux qui n'ont pas repris à leur vitesse de croisière, loin de là, puisqu'on sait que la frontière de la Chine est toujours fermée. les milieux d'affaires essaient de négocier des visas, ils vont en avoir pour revenir travailler ici. Des vols spéciaux sont d'ailleurs en train de s'organiser. On parle d'un vol spécial pour les entreprises allemandes la semaine prochaine. Mais tout ça ne fera pas une croissance extraordinaire en 2020, donc personne ne l'annonce. Cela dit, des experts pensent que cette croissance pourrait être de 2 ou 3% cette année, c'est-à-dire nettement en dessous des 6,1% de 2019.
Et Dominique, la Chine, elle va aussi essayer d'accélérer son redémarrage hein, avec un plan de relance qui a donc été détaillé hier. Concrètement, ce plan, il va consister en quoi ?
Alors, Pékin va d'abord freiner sa politique de désendettement en laissant filer son déficit budgétaire d'au moins 3,6% cette année contre 2,8% l'an dernier. Un emprunt d'État spécial d'un montant de 128 milliards d'euros va être émis cette année. Il sera accompagné aussi d'un plan d'investissement de 481 milliards d'euros. C'est un plan qui va soutenir l'emploi et puis les industries émergentes comme la 5G ou bien les voitures électriques. Les petites entreprises qui ont été très touchées par le Covid-19 comme partout ailleurs dans le monde vont bénéficier de soutien supplémentaire puisque les prêts vont augmenter de plus de 40%. Les prêts, ce sont ceux des banques importantes en Chine. Le paiement des prêts et des intérêts sera repoussé jusqu'en mars 2021 et puis la charge fiscale va aussi être réduite. C'est une bonne nouvelle pour les petits patrons. Et puis l'annonce aussi qui a fait sourire tout le monde, c'est que les dirigeants devront donner l'exemple à tous les niveaux en Chine, que ce soit le gouvernement local ou central. Tout le monde devra se serrer la ceinture, a prévenu Li Keqiang.
Dominique André avec nous depuis Pékin. Merci à vous, merci à Christian Chavagneux et Emmanuel Le Chypre. Le débat éco, c'est le samedi sur France Inter dans le mag grand format. Et dans 3 minutes, Sonia De Villers et son invité. On a beaucoup parlé de l'impact de la pandémie sur la télé privée et la télé publique alors. Question à Takis Candilis, le numéro 2 de France Télé. Mais avant la musique des chiffres, la musique tout court.
Te souviens-tu du temps de nos confinements ? J'étais triste et hagard, ne sachant plus vraiment si les jours reviendraient des grands rires et du vent. Tu m'as dit doucement qu'on avait en deux temps toutes les solutions à nos questionnements. Sachant plus vraiment si les jours nous rendraient plus aimés, plus aimants. Tu m'as dit tendrement que j'avais maintenant toutes les réponses à mes questionnements.
D'après après confinement du chanteur M, une célébration de l'arrivée du printemps, du renouveau. C'est bien la scène française que France Inter soutient bien sûr. Et puis Mathieu Chédid, il a annoncé que tous les bénéfices générés par ce titre seront reversés à l'association dont il est parrain, le Secours Populaire.
On n'arrête pas l'écho.
Et voici notre dernier quart d'heure de cette première partie du Mag Écho, un quart d'heure d'actualité des médias concocté par Sonia De Villers. Bonjour Sonia.
Bonjour Alexandra et bonjour à tous.
Alors les patrons des chaînes privées font état de l'effondrement du marché publicitaire et des conséquences sur leurs entreprises. On a des plans d'économie qui sont déjà annoncés au sein des maisons mères de RMC, BFM ou encore M6 et RTL. Mais quid de nos chaînes publiques? Quel bilan tirent-elles du confinement? Quels enjeux doivent-elles se préparer à affronter pour la rentrée? Sonia, dans un instant, vos questions à Takis Candilis, le directeur général de France Télévisions.
Oui, Alexandra, quid de l'audiovisuel public en cette période qui rebat les cartes et accélère la mutation des modèles? Parlons d'abord de ce qui se dessine dans les médias privés, Alexandra. D'un côté, il y a ceux qui dépendent de la publicité pour vivre. Eux, ils subissent la récession de plein fouet. C'est le cas en France, par exemple, des chaînes de télévision gratuites que sont TF1, C8, LCI, RMC Découvertes, etc. De l'autre, il y a les médias qui reposent sur l'abonnement. Eh bien, on constate, et c'est aussi une leçon à tirer du confinement, que lorsque le contenu correspond à une attente, eh bien, les gens sont prêts à payer. Qu'on fasse la ruée vers les plateformes Netflix ou Disney+, qui sont payantes. Ça vaut aussi pour la presse, Alexandra. Les abonnements au New York Times explosent aux États-Unis. Ceux au Monde devraient, selon mes informations, aussi grimper en flèche, comme ceux au site Mediapart, qui a sorti beaucoup d'infos sur la gestion gouvernementale de la crise. Il y a donc des médias privés qui vont sortir laminés de cette crise, d'autres grand gagnant, et on ne le dit pas assez. Alors en face, quid du public? Lui, il ne dépend ni de la pub, ni de la santé financière d'un actionnaire, mais de la seule volonté de l'État d'avoir un audiovisuel fort ou pas. Et c'est intéressant d'interroger son avenir en ce moment.
Bah, en Grande-Bretagne, Sonia, par exemple, Boris Johnson, qui était l'ennemi affiché de la BBC, il est quand même en train d'adoucir ses positions. Même si la cure d'austérité imposée à l'audiovisuel public britannique reste sévère.
Oui, mais la crise a fait changer Boris Johnson de regard sur l'utilité de télé et de radio publiques fortes. Mardi, la BBC annoncera même peut-être que sa chaîne jeunesse, tenez-vous bien, a basculé sur un site internet il y a 4 ans, sous prétexte que les jeunes ne regardent plus la télé et qu'il faut faire des économies, et bien cette chaîne jeunesse, BBC 3, va peut-être redevenir une chaîne de télévision classique, on le saura cette semaine. Ironie du sort et des calendriers, chez nous, le gouvernement a décidé de fermer France 4. Mais les programmes éducatifs de ces dernières se sont avérés tellement plébiscités pendant le confinement que le ministre va peut-être, lui aussi, adoucir sa position et y renoncer.
Allez, question donc à Takis Candilis, le directeur général de France Télévisions. C'est l'homme aux commandes des programmes de nos chaînes publiques, mais aussi des extensions numériques de France Télé, les sites Slash pour les ados, Oku pour les enfants et Lumni, qu'on est un certain nombre à avoir appris à connaître, pour les programmes éducatifs. Bonjour Takis Candilis.
Bonjour Sonia.
Sonia, votre
bonjour à vous.
Oui, votre première question à Takis Candilis.
Alors, Takis Candilis, parmi les enjeux financiers auxquels vous êtes confrontés, on va les égrener les uns après les autres, il en est un majeur. Les assureurs ont lâché le secteur de l'audiovisuel. L'État a été obligé de créer un fonds pour garantir les tournages à la place des assureurs. On a l'impression que ça couvre les tournages de fiction. Quid des jeux, des magazines, des divertissements?
Bah effectivement, c'est un peu le problème. La plupart des producteurs aujourd'hui de ce qu'on appelle le flux, comme vous dites, les magazines, les divertissements, etc., les jeux, ne sont pas couverts par la moindre assurance. Alors ça pose un problème, surtout sur, on va dire, les séries divertissantes, comme par exemple Fort Boyard. Fort Boyard, c'est des tournages resserrés sur une certaine période, avec énormément de techniciens à bord, des concurrents, etc. Et si on a un problème d'assurance avant le tournage, eh ben le producteur ne pourra pas livrer et donc ne pourra pas être payé. Donc ils sont en train d'essayer de chercher des solutions et nous sommes évidemment les premiers à vouloir les accompagner et trouver avec eux des solutions pour qu'ils puissent tourner ces fameux programmes.
C'est ça, parce que ce sont des programmes qui ne sont pas préfinancés, hein, en fait, qui sont rémunérés une fois la livraison effectuée, comme vous venez de le souligner. Avec France Télévisions, c'est 3 milliards, en gros, hein, 3 milliards d'euros de budget. Quelle est la part de la publicité? Quelles conséquences pour France Télévisions, hein, de l'effondrement du marché publicitaire? Et pour ce qui est des grands événements sportifs qui étaient prévus au calendrier, Takis Candidis, est-ce que leur décalage dans le temps représente pour vous une économie ou plutôt une perte de recettes?
En ce qui concerne les événements sportifs, c'est un peu les deux. Primo, ouais. le grand événement sportif de l'année, qui sont les JO de Tokyo, effectivement, sont reportés d'un an. Pour nous, c'est un achat de droits important qui lui-même est reporté, mais en même temps, c'est aussi source de publicité, puisque les JO drainent généralement des annonceurs particuliers et nous permettent d'avoir des recettes publicitaires plus importantes. Sur les autres grandes manifestations sportives que nous espérons avoir à la rentrée, que sont le Tour de France, reporté lui aussi en septembre, et Roland-Garros en octobre, les situations vont être un peu différentes. Pourquoi elles vont être différentes? Parce que c'est pas la même chose de diffuser ce genre d'événement pendant l'été ou au tout début de l'été, avec un public qui peut être en vacances et qui peut être devant son téléviseur pendant l'après-midi, et puis de le diffuser à la rentrée au moment où tout le monde a repris le travail. Mais on verra, on pense que ça va être des très 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 bonnes audiences et surtout un très beau spectacle.
Avec quoi allez-vous remplacer à l'antenne Takis Candidis, Roland Garros, puis le Tour, puis les JO? Puisque avec l'interruption des tournages, est-ce que vous allez disposer d'assez de programmes frais, hein, ou est-ce qu'on va avoir de la rediffusion tous azimuts?
Bah écoutez, là encore, été particulier, puisque généralement on est plutôt en rediffusion pendant l'été. Or, il y a eu tout le moment du confinement dur, on va appeler ça le confinement dur, c'est-à-dire les deux mois et demi qu'on vient de passer, où les tournages n'ont pas pu avoir lieu, ou alors dans des situations assez dégradées, par Skype, etc. Et or, nous avions des contrats avec ces producteurs pour qu'ils nous livrent un certain nombre d'émissions. Donc, ces émissions vont nous être livrées à partir de maintenant, et quelquefois même, on va commander plus d'émissions qui n'était prévu pour recouvrir une grande partie de cet été et ne pas se retrouver qu'avec des rediffusions, mais bien des programmes inédits.
Donc là, on parle de programmes de l'après-midi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, les après-midi de France 2, on va avoir du frais, des magazines qui sont tournés là en ce moment?
Écoutez, c'est déjà le cas. On a repris le frais depuis peu. Alors, c'est un frais, effectivement, qui, malheureusement, est tourné sans public ou est tourné, par exemple, je pense à N'oubliez pas les paroles, l'émission de le jeu de Nagui, où on a tourné avec un public très clairsemé, mais aussi des personnages sous forme de ballon pour garder l'atmosphère, la bonne humeur qui est nécessaire au succès de ce jeu, on peut appeler ça un jeu. Et donc, on est obligé de faire évoluer tout au long du déconfinement, qu'on espère le plus rapide possible. On est obligé de faire évoluer la mise en scène de nos jeux, la façon de les tourner, pour qu'ils soient le plus proche possible de ce qu'ils étaient auparavant. Puis on espère surtout que l'étau va se desserrer, surtout si les gens continuent évidemment à faire très attention et à ce qu'il n'y ait pas de rebond du coronavirus. Nous, en tout cas, sur nos jeux, on fait excessivement attention à toutes les mesures prophylactiques ou sanitaires qu'on impose évidemment sur les tournages, autant aux techniciens qu'aux participants des jeux.
C'est
un moment un peu particulier. Hein.
Takis Candidis, puisque les tournages reprennent, hein, puisque vos programmes reprennent avec des inédits, avec du frais, comme vous dites, comment vous allez faire à la rentrée, puisque vous allez avoir le Tour de France l'après-midi, Roland-Garros l'après-midi, et les programmes qui reprennent, comment vous allez faire loger tout ça sur les grilles?
Ça a été la décision prise par Delphine Ernotte, c'est de dire la vraie rentrée de France Télévisions sera en janvier.
Ouais.
Et donc, tout au long de ce dernier quadrimestre, d'une part, on va re-signer avec les producteurs pour leur permettre d'avoir une visibilité et pour leur permettre de reprendre les tournages dans des conditions les plus salutaires et les meilleures possibles. Et puis en même temps, de nous permettre, nous, de prendre le temps de réfléchir à ce que doit être cette nouvelle grille, qui sera donc janvier 2021, dans des conditions d'approvisionnement qui seront, j'espère, régulées. Voilà. Parce que effectivement, on va se retrouver avec, sur septembre et octobre, tous nos après-midi pris par le sport. Ça voudra dire que les inédits de nos magazines d'après-midi ne reprendront réellement qu'en novembre. Donc tout ça doit être effectivement pris dans un contrat un peu global où on doit recalculer le nombre d'émissions, etc.
Évidemment. Alors je l'ai dit, hein, le gouvernement hésite, fermer France 4, laisser France 4 justement une chaîne de télévision de plein droit. Imaginons scénario numéro 1 que France 4 chaîne jeunesse ferme. Vous avez promis au printemps de réinjecter les dessins animés de France 4 sur France 5 et sur France 3. Plus le Tour de France, plus Roland-Garros, là aussi, impossible de tout loger sur vos grilles de programme. Comment vous allez faire ?
Mais déjà, le plan que nous avons et que nous avions, et ouais, que nous avons, puisque la décision aujourd'hui est prise de fermer France 4, donc nous sommes évidemment mis en ordre de bataille pour le faire, c'est de réinjecter pendant les week-ends, pendant les périodes de vacances, évidemment énormément de dessins animés, ouais, sur la 3 et sur la 5. L'autre, ce qu'on a vu aussi, ce qui s'est passé, et vous l'avez cité dans le petit papier qui était juste, ouais, auparavant, c'est que les programmes éducatifs de l'UMNI ont rencontré un grand succès. Et on a travaillé main dans la main avec le ministère des Affaires de l'Éducation nationale, ouais, pardon. On a travaillé avec le ministère pour offrir des heures et des heures de cours aux enfants qui étaient confinés chez eux. Ça, nous allons le continuer. Nous le continuerons sur le site l'UMNI. Nous avons d'ores et déjà mis en projet, en tournage, plusieurs centaines d'heures de programmes qui vont continuer. Mais on ne pourra pas imaginer que la présence des programmes enfants ou jeunesse sur nos chaînes, qu'il y ait la 4 ou qu'il n'y ait pas la 4, ne prenne pas en compte cette notion éducative ou ludo-éducative qui va nous obliger, nous, à repenser. À repensant la fonction du service public pour les enfants.
Je vous entends, Takis Candilis, mais si la 4 ferme, vous les mettez où les dessins animés, sachant que vous accueillez du vélo et aussi du tennis sur vos antennes?
Il n'y a ni vélo ni tennis, donc on avait déjà prévu que sur la 5, il y ait une partie, notamment à ce qu'on appelle l'after school, c'est-à-dire à partir de 16h30 jusqu'à 18h environ. Et puis, évidemment, les week-ends, le samedi matin, le dimanche, etc., etc. Continuer à avoir une présence des programmes jeunesse sur la 3, bien que petit à petit, nos matinées, qui se font avec vos cousins de France Bleu, vont prendre le pas sur ces programmes jeunesse. En fait, c'est tout un rééquilibrage auquel nous sommes obligés de procéder et que nous allons faire, évidemment, tranquillement, dès la rentrée.
Mille merci, Takis Candilis. Je rappelle que vous êtes le directeur général en charge des programmes de France Télévisions. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci à vous, Sonia. Au revoir.
Merci à vous, Takis Candilis, et merci à vous, Sonia De Villers. L'économie des médias, c'est tous les samedis, on n'arrête pas l'écho, grand format.
Chantal et Alain ont 70 ans. Ils n'ont pas vu leurs petits-enfants depuis le début du confinement. Ils n'ont qu'une envie, les serrer dans leurs bras. Alors, pour profiter de leurs petits-enfants et de toute la famille, Chantal et Alain s'adaptent. Ils font très attention à respecter les mesures barrières.
Le virus est toujours là et 9 personnes sur 10 qui meurent d'une infection à coronavirus ont plus de 65 ans. Restons prudents. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Avec l'arrivée des beaux jours, venez découvrir sur manomano.fr tout un tas de machines pour couper l'herbe, les petits arbres ou même les gros arbres. Et si après ça, vous avez trop coupé, nous proposons également tout un tas de machins pour replanter.
Manomano.
C'est tout de suite plus facile avec manomano.fr. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire.
TPE, PME de moins de 50 salariés, l'assurance maladie risque professionnel vous aide à financer vos achats d'équipements pour protéger vos salariés du Covid-19. Si vous avez investi depuis le 14 mars ou si vous comptez investir dans des mesures de protection, faites votre demande de subvention sur amélie.fr/entreprise. Aide de l'assurance maladie risque professionnel.
Il est 10h sur France Inter. On n'arrête pas l'écho, en tout cas on ne l'arrête pas jusqu'à 11h. Nous avons rendez-vous avec Sandrine Foulon, Ma Vie au Boulot, les réponses à vos questions, ce sera dans 20 minutes. Nous aurons le plaisir de recevoir Johann Sfar, oui, le père du chat du rabbin, le dessinateur, réalisateur, scénariste et romancier. Il sera en direct avec nous pour parler de la situation particulière des auteurs. Juste avant 11h, une idée pour repenser le monde ce samedi, la sociologue Dominique Méda. Mais avant cela, on va s'intéresser à la situation de l'hôpital public. Vous le savez, un nouveau plan pour l'hôpital va s'écrire. Coup d'envoi après-demain, lundi. Le Ségur de la Santé, le professeur André Grimaldi, un des fondateurs du collectif Interhôpitaux, est notre invité. Mais d'abord, qu'en dit-on au cœur de la machine pour les soignants, les administratifs? Quelles leçons tirées de la pandémie? Allez, c'est l'heure, on sort du studio. Notre reporter Célia Kiré a eu l'autorisation de poser son micro en salle de réa.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bonjour.
Bonjour.
Sans ça, vous ne rentrez pas. Attendez. Mon nom est Mehran Monchi, je suis le médecin, chef de service de la réanimation du centre hospitalier de Melun et président de la commission médicale de l'établissement. Alors ici, donc, vous rentrez dans le service qui s'appelle le service de médecine intensive. Du fait de la crise, on se retrouve à 34 lits de réanimation aujourd'hui.
Donc là, on voit finalement dans ce couloir des malades qui sont sur des lits, chacun dans des pièces séparées. Vous semblez avoir relativement assez de place, en fait. C'est grand, c'est assez spacieux?
Alors, c'est grand et c'est assez spacieux parce que le bâtiment est neuf. C'est pas le cas de l'ensemble des bâtiments des hôpitaux d'Île-de-France.
Vous avez pu accueillir combien de patients au plus fort de la crise?
Sur le secteur de réanimation, le nombre de patients ventilés, comme on a étendu le service à un étage supplémentaire, 50. Il a fallu faire... des prouesses pour ne pas manquer de matériel consommable dans le secteur de réanimation. Vous avez des surblouses, vous avez du matériel spécifique aux soins respiratoires. Les médicaments, la consommation a été multipliée par 20. Donc, à un moment donné, on s'est retrouvé dans des situations où c'était tendu. Quand vous avez 3 jours de réserve et pas plus, vous n'êtes pas très serein. En 2 mois, cet hôpital, on a eu 750 patients Covid-19. Pour l'instant, les surcoûts engendrés par l'arrivée de ces malades n'ont pas été totalement payés par l'État. Les sommes qui, pour l'instant, sont arrivées ne compensent pas du tout le surcoût jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que ça suivra. C'est le système hospitalier qui a tout fait. S'il y a un regret à avoir, moi, le seul regret que j'ai, c'est qu'on n'a pas pu sauver tout le monde.
Ce qui pose une question terrible. Avec plus de moyens, l'hôpital aurait-il pu faire mieux? En tout cas, on l'a vu tenir, le système hospitalier, faire des prouesses. Mais à présent que la maladie semble refluer à petits pas, eh bien, il est temps de faire un premier bilan de l'expérience extrême durant laquelle les équipes ont réinventé toute leur organisation. Ce matin, nous sommes donc avec notre reporter Célia Kiré au centre hospitalier Sud-Île-de-France, à Melun. C'est un établissement, on l'a entendu, flambant neuf, où le docteur Monchi nous a accueillis. On le suit au calme pour discuter.
On est actuellement dans mon bureau en réanimation.
De cette crise, quelles leçons vous tirez pour la suite, pour améliorer l'hôpital public? Est-ce qu'il y a des réformes urgentes à faire?
Les services et un certain nombre de services des hôpitaux publics sont sous-financés, particulièrement le mien. Le financement des services de réanimation est très inférieur à leur coût. Les services d'urgence et de réanimation sont quand même des services indispensables au fonctionnement d'un hôpital. On ne demande pas des choses invraisemblables, on demande qu'ils soient financés à la hauteur des coûts que cela représente. On est entre 1400 et 2000 euros par jour et par personne. Actuellement, le financement, dans le meilleur des cas, peut être estimé aux alentours de 1200 euros. Donc il manque 25% au coût de fonctionnement d'un service de réanimation. On ne peut pas continuer comme ça.
Je vous montre juste une chose avant de partir.
Oui, tout à fait. Mes prévisions pour l'été. Comment vous faites pour l'été prochain? Vous laissez les infirmières prendre 2 semaines de vacances ou vous leur interdisez les vacances? Et si vous leur interdisez les vacances, comme l'épidémie ne s'arrêtera pas à la fin de l'été, combien de temps vous leur interdisez les vacances? 12 mois? 18 mois? Combien de temps? On les a fait travailler jusqu'à 60 heures par semaine, les infirmières, pendant cette crise.
Oui, c'est ça.
C'est quoi, à côté de ça, les compensations quand cette crise sera passée? Il y a un peu d'embauche à faire, et s'il n'y a pas à la hauteur de ça une compensation salariale, ils ont la vie des gens entre leurs mains. Hein. Vous voulez remonter à la direction?
Oui. Allez, on prend l'escalier pour rejoindre plus haut Dominique Peljac, le directeur de l'hôpital. Il ne tire pas du tout les mêmes leçons de cette crise.
Aujourd'hui, le sujet n'est pas, pour mon établissement en tout cas, un manque de crédit. Le sujet, ce n'est pas tellement d'avoir plus d'infirmières. Le sujet aujourd'hui, pour ce qui concerne, je dis très humblement, mon établissement, c'est pouvoir attirer des personnels. C'est ça le véritable sujet pour moi.
Et donc, d'après vous, qu'est-ce que vous souhaitez voir comme réforme pour justement les attirer ?
Ah ben là, pour le coup, moi je pense que ça passe véritablement par une revalorisation des salaires. C'est un enjeu majeur.
Et parlons de chiffres, il faudrait une revalorisation de combien à peu près ? 10%, 20% ?
Alors c'est une question piège que vous me posez là, évidemment. Mais si on fait des comparaisons par rapport au système de santé étranger, je pense qu'une revalorisation de l'ordre de 15 à 20% ne serait pas déraisonnable en tant que telle.
Si, comme vous le dites, il faut aller vers une augmentation des salaires des personnels soignants, si on reste dans le même budget, quelles sont les sources d'économies possibles ? Vous parlez par exemple de fusionner certains plateaux techniques ?
Là, par exemple, sur l'hôpital de Melun-Sénart, nous avons collaboré avec, et nous collaborons d'ailleurs avec une clinique privée, et nous avons mutualisé un certain nombre de fonctions. Je pense au bloc opératoire, je pense au laboratoire, je pense à l'imagerie médicale, je pense aussi à des fonctions support telles que les infrastructures informatiques. Bref, ce qui coûte cher, nous avons essayé de mutualiser. Ça permet de faire des gains pour la collectivité.
D'ailleurs, cette clinique, nous la voyons très bien avec le directeur par la fenêtre, mais ce partenariat public-privé n'est pas toujours bien apprécié, loin de là. Retour dans les services, un étage plus bas, le docteur Sylvain Diamantis m'attend, visiblement épuisé par cette crise du Covid, son matelas rangé à la verticale dans son bureau. Il regrette, comme d'autres, de voir des activités qui rapportent partir dans le privé. Bonjour. On est devant votre service, je vois un panneau risque infectieux. Vous êtes infectiologue, c'est ça ?
Oui, je suis infectiologue. Si on avait eu des moyens, même pas supplémentaires, juste suffisants, on aurait naturellement fait mieux, oui. On aurait pu déjà protéger le personnel soignant de mieux que ce qu'il a été. On a vu qu'en Seine-et-Marne, le nombre d'infectiologues était très faible et de nombreux hôpitaux n'avaient pas d'infectiologues et qu'il serait légitime que chaque établissement public et privé soit forcé d'avoir un équivalent temps plein d'infectiologues au prorata du nombre de lits sur le même système que les médecins hygiénistes. Et cette crise nous montre que être limité en nombre de lits est une catastrophe et qu'il faut avoir systématiquement des ressources pour pouvoir hospitaliser plus de patients en cas de pandémie ou simplement pour la grippe hivernale qui systématiquement surcharge les hôpitaux. Donc on a envie de penser qu'il faudrait avoir au moins 10 à 20% de plus de lits disponibles de toute façon. On a fait avec ce qu'on avait. Je pense qu'il faut anticiper les prochaines crises qui seront systématiques, c'est obligatoire. Il y aura forcément des nouvelles pandémies de virus du type grippaux ou coronavirus ou autres. Et il faut s'y préparer. Et pour ça, il faut avoir un système de santé fort avec un réseau hospitalier solide.
Alors comment renforcer le système hospitalier ? Où trouver l'argent ? Je quitte Melun, direction l'Institut Jourdan dans le 14e arrondissement. Karine Milsan est spécialiste de la santé à l'École d'économie de Paris.
Le fait est que c'est nous tous qui payons pour l'hôpital public. Donc la question qu'on doit tous se poser, c'est quelle somme sommes-nous prêts à mettre dans l'hôpital ? C'est-à-dire jusqu'où on est prêt à mettre des prélèvements ? Quel pourcentage de prélèvements sommes-nous prêts à accepter pour cet hôpital public ? Enfin, regardez combien vous dépensez pour la santé, CSG, CRDS, faites le calcul. Et on est dans un monde, en fait, où vous avez de plus en plus de gens qui sont en maladie chronique. Et ce sont les maladies chroniques qui coûtent excessivement cher à notre système de santé. Parallèlement, nous sommes l'un des pays où l'espérance de vie est la plus longue, autant pour les femmes que pour les hommes. Mais l'espérance de vie en bonne santé est en moyenne moins bonne que dans la moyenne européenne. C'est une période de plus en plus longue où on consommera des soins. Donc avant de répondre à la question « combien êtes-vous prêt à mettre ?» pour l'hôpital public, demandez-vous, combien êtes-vous prêt à mettre dans le futur également sur l'hôpital public ?
Et en effet, les besoins vont augmenter, c'est une certitude. Voilà au moins un point de consensus. Mais est-ce que les salariés, les retraités accepteront de voir la CSG augmenter ? Pas sûr. Est-ce que l'État devra faire des économies dans d'autres ministères ou rogner sur d'autres dépenses de santé ? Frédéric Bizard est économiste lui aussi. Ce libéral préside l'Institut Santé. Pour lui, le poids de l'administration est trop lourd. Il rêve d'un hôpital recentré sur quelques missions.
On voit bien que dans le discours ambiant, il faut tout conserver. Clairement, ce que l'on voit à l'étranger, c'est qu'on ne peut pas faire toutes les spécialités dans un même hôpital et faire de l'excellence partout. Quand je parle d'évolution culturelle, c'est qu'il faut que l'hôpital accepte que son rôle ne va pas être marginal, mais que son rôle va être différent et ne va pas être central pour toutes les activités.
Vous avez des chiffres. Est-ce que vraiment il y a un désinvestissement aujourd'hui dans l'hôpital public ?
Alors quand on regarde sur le long terme, on voit que la part des dépenses hospitalières dans l'assurance maladie a été plutôt stable, voire a un petit peu augmenté. Si je prends en 2012, vous aviez 35,6% des dépenses d'assurance maladie dédiées à l'hôpital public. Si vous les prenez en 2017, vous êtes à 36,2%. Donc vous voyez qu'il y a une légère progression. Je suis désolé de le dire, mais on n'a pas désinvesti dans l'hôpital de façon générale. La dépense hospitalière en France est relativement élevée par rapport à d'autres pays. De mon point de vue, elle n'est pas trop élevée. La France dépense chaque année à peu près 73 milliards pour l'hôpital public aujourd'hui, 3,8 points de PIB, hein, contre à peu près 2,8 à 3 points dans la moyenne des pays de l'OCDE, donc presque un point de PIB de moins. Ce niveau de dépense, à mon avis, doit permettre d'avoir un hôpital public fort.
Et maintenant, quel hôpital ? C'était le reportage de Célia Kiré.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et nous poursuivons la réflexion avec notre invité. Bonjour, professeur André Grimaldi.
Bonjour.
Professeur émérite à la Pitié-Salpêtrière, vous êtes aussi le cofondateur du collectif Inter-Hôpitaux. Alors au début de ce reportage, on entend donc ce médecin qui dit « Mon seul regret, si je dois faire le bilan, c'est qu'on n'a pas pu sauver tout le monde ». Est-ce que ça a été une question de moyens ? Est-ce que si l'hôpital public avait eu plus de moyens, on aurait sauvé plus de vies, professeur Grimaldi ?
Non, mais peut-être pas, parce que la réanimation a tenu en mobilisant tout le personnel, tous les médecins, sur une seule maladie qu'est le Covid. Maintenant, on aurait sûrement évité des contaminations dues à des manques de sécurité, à la fois pour les personnels soignants et à la fois pour les personnes qui étaient en première ligne. Hein. Vous avez vu les abattoirs et autres. Hein. On a manqué de moyens pour la prévention. Masques, on a été en limite de médicaments, donc on a aussi utilisé des médicaments de deuxième ligne, hein, faute d'avoir suffisamment de curares, suffisamment d'anesthésiants, etc. Donc il y avait une réelle pénurie. Tout ça était lié à une philosophie quand même, qui était pas de stock le flux. Le mot d'ordre des directeurs était faut transformer l'hôpital de stock en hôpital de flux.
Et est-ce que ça n'a pas
changé de valeur, donc pas de lit vide.
Est-ce que ça n'a pas changé? Justement, est-ce que le bilan qu'on doit tirer de ce qui s'est passé, cette expérience de réorganisation, c'est pas que les soignants, finalement, ont repris le dessus, repris les manettes, c'est ça qui s'est passé ?
Alors oui, vous avez raison, c'est-à-dire que cette épidémie, Covid, on peut l'interpréter de deux manières. Soit on dit que c'est un épisode exceptionnel, aigu, dramatique, et puis après, quand ça sera terminé, on revient à l'avant. Soit on dit qu'il faut changer, mais pas changer pour seulement avoir quelques stocks, c'est une philosophie générale. Notre système n'était pas adapté et n'est pas adapté aux urgences et aux maladies aiguës épidémiques, et il n'est pas adapté non plus à la maladie chronique. On a vu les carences du rapport ville-hôpital. Au début, les médecins de première ligne, de soins primaires, médecins généralistes, infirmières ont été court-circuités. Et eux-mêmes doivent travailler en équipe. Alors c'est ce qui s'est fait lors de cette épidémie Covid. Bon, on a vu que la gestion doit être au service du soin et pas l'inverse. L'hôpital avant, les structures de base de l'hôpital depuis 2009, la loi dite Bachelot, HPST, c'est les structures de gestion. Le mot service a été supprimé de la loi. Donc, en fait, ce sont les équipes de soins qui doivent être évidemment la base de l'hôpital public et la gestion doit être au service du soin. La tarification à l'activité, qui a une logique pour les activités techniques standardisées, est complètement inadapté à l'urgence, inadapté à la réanimation, le collègue le disait, le collègue de Melun, oui. Inadapté aussi à la maladie chronique.
Hein? Alors justement, on part de là.
Tout ça est à revoir.
Mais justement, c'est exactement ce qu'on va... C'est tout ce débat qui est préexisté. Bon, et là, il y a eu un changement du rapport de force. On part de là, lundi, avec ce Ségur de la santé, des nouvelles négo. La promesse de l'exécutif, c'est, et je le cite, un plan massif aux effets rapides. Emmanuel Macron, il a même fait un mea culpa. Ça sera quand même le 6e plan santé en 3 ans. Est-ce que vous, professeur Grimaldi, vous êtes confiant ?
6 plans en 3 ans, c'est... Ça fait une défiance. C'est pour ça qu'on a publié un livre, Santé Urgence, qui sort chez Olivier Jacob, et qui m'a fait comprendre une chose, c'est que la déficience de notre système de santé est pas seulement pour les maladies chroniques, mais également pour l'épidémie des urgences et pour les mêmes raisons. Et donc, c'est un changement d'orientation. Et là, il y a une ambiguïté, parce que le président de la République dit, en gros, on s'est trompé, il y a des biens supérieurs qui doivent échapper aux lois du marché. Alors, déclinons ça concrètement, y compris revenons sur l'abrogation de la loi de Veil de 94, hein, qui sanctuarisait les recettes de la sécurité sociale, qui obligeait un gouvernement qui décide des exonérations de cotisations à compenser intégralement la sécurité sociale. Et c'est pas ce qui a été fait, ça a été abroché en 2018, si bien que en 2019, le gouvernement a pris 2,5 milliards à la sécurité sociale à la suite des mesures sociales pour les gilets jaunes. Donc voilà, une série de mesures qu'il faut... Est-ce qu'on change d'orientation ou on dit c'est un plan de plus? Parce que le mot plan massif a déjà été employé. Le 20 novembre, le Premier ministre dit « je décide un plan massif » pour l'hôpital, c'était le quatrième plan.
On entend votre défiance.
Espérance et défiance.
Espérance et défiance. Là, le ministre de la Santé, il a quand même lâché quelque chose de différent. Olivier Véran a ouvert la porte à un assouplissement des 35 heures à l'hôpital. Est-ce que pour vous, explique-nous, est-ce que ça c'est une bonne idée?
Alors, la mauvaise idée, ça a été les conditions dans lesquelles ont été appliquées les 35 heures, sans embauche de personnel. Ça a eu comme conséquence et les blocages des salaires et la mutualisation des personnels, ce qui fait qu'une infirmière est tantôt dans un service, le lendemain dans un autre, et la variabilité des horaires. Il y a des infirmières à sciences publiques qui commencent une semaine à 6 heures du matin et puis l'autre semaine à 14 heures. Donc pour la vie de famille comme pour le travail d'équipe, tout ça est chaotique. Et donc il faut payer les heures supplémentaires, ce qui n'était pas fait. Et il faut revoir les salaires. Comment voulez-vous qu'une infirmière dans des conditions de travail pareilles, qui habite Paris et qui commence à 1 600 € brut par mois, puisse venir? Avant la crise du Covid, il y avait 800 postes d'infirmières non pourvus. Donc évidemment, il faut revaloriser les infirmières des urgences et aides-soignantes et les secrétaires.
Mais alors les 35 heures?
Eh bien, les 35 heures, il y a les heures supplémentaires, c'est quand même pas très compliqué. Il y a des infirmières qui, figurez-vous, les 35 heures ont eu comme conséquence, avec le blocage des salaires, qu'un certain nombre de jeunes infirmières, quand elles n'ont pas d'enfants, font les piges dans les cliniques. Alors, c'est pas très bien, parce que c'est une logique d'intérimaire et pas de travail d'équipe, mais pour pouvoir gagner leur vie, elles travaillent plus. Donc, cette loi qui avait pour but de diminuer le temps de travail a, pour beaucoup d'infirmières, augmenté le temps de travail. Donc, il faut simplement, revaloriser les salaires et permettre de payer les heures supplémentaires. Il n'y a pas à refaire un grand conflit social. On sort déjà d'un conflit social, un deuxième pour l'hôpital, c'est pas la peine. Il faut reconstruire l'hôpital, mais reconstruire l'hôpital, ça veut dire reconstruire aussi les rapports avec la ville.
Alors,
l'hôpital doit être le recours de la ville. Alors, on a mis en route, et ça c'est un point positif, les communautés pour qu'il y ait un travail d'équipe en ville, mais ça avance lentement. Il faut donner des moyens, et la crise du Covid a montré qu'il y avait une avancée dans le domaine.
Revalorisation, ça vous l'avez dit, revalorisation des salaires, c'est un des piliers de ce plan. Il y a aussi de l'investissement qui est promis, une réorganisation. Mais on se souvient bien qu'en 2018, face à des infirmières, Emmanuel Macron avait expliqué qu'il n'y avait pas d'argent magique. Alors moi, il faut quand même nous dire comment en 2020, avec le trou de la Sécu qui est devenu de fait, normalement, mécaniquement, avec un gouffre, on annonce des moyens à la fois pour les EHPAD, les hôpitaux. Qui va payer, professeur Grimaldi?
Premièrement, je crois que l'ensemble de la société est prête à payer plus à condition qu'il n'y ait pas de gaspillage. C'est-à-dire tout le monde est payé plus pour la santé, mais pas pour du gaspillage, pas pour des examens inutiles.
Mais quand vous dites l'ensemble de la société est prêt à payer plus, vous pensez qu'il y a un consensus? Par exemple, quand on augmente la CSG, on voit bien que les retraités descendent dans la rue.
C'est tous les sondages qui ont été faits le montraient. La condition, évidemment, c'est que ce soit pour une efficacité qui aille aux soins, à la prévention, aux inégalités sociales, etc., et pas pour des rentes. Alors, prenons les structures de dépenses. La France dépense 11,2% de son PIB, ce qui est comme l'Allemagne, mais par habitant, nous ne sommes pas 3e, à ce moment-là 12e, ce qui est quand même beaucoup, 4 900 $, les Allemands 20% en plus, pour dire les choses clairement. Donc la France dépend comme les pays riches, pas plus, mais comme les pays riches. Alors, quand on voit des structures de dépenses, le personnel soignant, que ce soit en ville ou à l'hôpital, en dehors de ceux des spécialistes qui ont une activité privée à l'hôpital ou des dépassements d'honoraires en ville, est moins payé que l'OCDE. Les infirmières qui habitent près des frontières, en Belgique, Luxembourg ou Suisse, passent la frontière pour travailler dans les autres pays.
Bien sûr, mais
c'est
justement, si on veut...
Je vous donne par contre, là où on dépense beaucoup plus que la moyenne de l'OCDE. En frais de gestion, nous dépensons 17 milliards. 7,5 milliards rien que pour les frais de gestion des mutuelles et des complémentaires santé qui ne remboursent que 13% des soins, mais qui ont des frais de publicité, mais qui ont des frais pour rechercher les clients, etc., etc., et qui sont soumis à des lois assurantielles européennes. Nous avons une médecine surprescriptive. En France, dès que vous avez un symptôme, vous avez droit à des examens, à une imagerie, à une IRM, à des échographies.
Donc on économise sur l'administratif, on économise sur l'administratif et les médicaments, c'est ça ?
Pas seulement sur les médicaments. Sur l'imagerie, sur les prescriptions inutiles. Enfin, en France, la ministre, Mme Buzyn, disait 20 à 30% des prescriptions et des actes sont injustifiés. En France, il y a 70 000 opérations de l'estomac pour obésité par an. Il y a des variations de 1 à 4 sur la chirurgie de la thyroïde, la chirurgie de la prostate, etc. Donc, il y a 100, on demande tout le monde un dosage de vitamine D.
Allez.
100 millions.
Une dernière question, oui. Professeur Grimaldi, très court. Nicole Notta, c'est l'ancienne secrétaire générale de la CFDT, oui. C'est elle qui va piloter le Ségur de la santé. Pour vous, c'est un bon choix, oui non?
Ça, c'est pas une question que vous me posez à moi. Moi, j'ai pas d'opinion sur le sujet. C'est qu'on laisse aux syndicats. C'est-à-dire que, évidemment, je pense que les syndicats, ils voient un message. Alors, ils le voient positivement, je pense, quand ils sont à CFDT. Ils le voient peut-être pas positivement pour les autres. Mmh. Moi, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est est-ce que c'est un vrai changement d'orientation? Ou c'est un aménagement et on continue.
Alors,
quand on écoute le président de la République, c'est un changement complet d'orientation. Il parle, il dit, il est sa providence, la santé est un bien ou qui doit ne pas être régulé par le marché. Quand on écoute le discours du ministre de la Santé, c'est pas exactement ça. Et je remarque que dans la convocation de ce Ségur, il n'y a pas une fois le mot hôpital public ni service public hospitalier. Il y a hôpital, mais au sens générique du terme. Hein. Or, moi, la leçon que je tire, c'est qu'il faut des services publics, mais pas des services bureaucratisés, étatisés. Des services publics au service du public.
Le professeur André Grimaldi, merci d'avoir été sur France Inter. Et je rappelle le titre de l'ouvrage qu'en effet, vous venez de publier chez Odile Jacob. Vous l'avez dirigé avec le chercheur Frédéric Pierru. Ça s'appelle « Santé, urgence ». À venir dans la prochaine demi-heure, le dessinateur, réalisateur, romancier et scénariste Johann Sfar zoome sur la situation particulière des auteurs. La sociologue Dominique Méda sera aussi avec nous, son idée pour repenser le travail. Et dans un instant, ma vie au boulot, c'est le magazine Echo, grand format, toutes les pulsations de la planète. Et d'abord Billie Eilish.
Just stay inside. Remember not to get too close to stars. They're never gonna give you love like ours. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely. So show me the way home. I can't lose another life.
Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Sandrine, les auditeurs vous ont écrit, alors je commence directement avec la question de Grégory qui est en chômage partiel. Grégory s'inquiète pour ses droits à la retraite. Mm-hmm. Devra-t-il travailler plus en fin de carrière pour rattraper un manque de cotisations ?
Aucun souci, Grégory, le chômage partiel compte pour les droits à la retraite. C'est vrai, on ne cotise pas quand on est en activité partielle, mais c'est réglé. Vos trimestres seront bien validés. Il n'y aura pas d'incident sur le montant de votre pension. Rassurez-vous aussi pour les droits à congés payés. Vous continuez à en acquérir pendant le chômage partiel. Rien ne change non plus pour vos allocations chômage si vous perdiez votre emploi. Le salaire réduit de l'activité partielle ne compte pas. Il est exclu du calcul de l'allocation qui se fait sur les 12 derniers mois de salaire.
Étienne en Bretagne et Véronique dans le Tarn-et-Garonne vous ont aussi écrit, ils ont tous les deux la même question, Sandrine. Leur employeur a invoqué le cas de force majeure pour rompre leur CDD de manière anticipée. Est-ce que les entreprises ont le droit de faire ça ?
En droit, le cas de force majeure est très restrictif et c'est toujours à l'appréciation du juge. Trois conditions doivent être remplies. Il faut que l'événement soit extérieur, imprévisible et insurmontable. Par exemple, un incendie qui ravage l'entreprise et qui empêche toute forme de reprise d'activité. Si les cases sont toutes les trois cochées, un employeur a le droit de rompre le contrat. Toute la question est de savoir si le Covid-19 est un cas de force majeure. Une pandémie, c'est évidemment extérieur et imprévisible, mais est-ce insurmontable ? Là, c'est beaucoup moins certain. Rudy Laquille, l'avocat d'Étienne qui attaque l'entreprise au prud'homme, explique qu'il y avait une solution. Les 50 salariés en CDD licenciés qui travaillaient avec Étienne auraient pu être placés en chômage partiel, largement ouvert par le gouvernement. En plus, l'activité de ces vendeurs de cigarettes électroniques ne s'est pas arrêtée puisque les bureaux de tabac sont restés ouverts. Pour Véronique, c'est pareil. Elle avait un contrat jusqu'à fin juillet. Tous les CDD ont été brutalement arrêtés alors que les salariés en CDI ont pu bénéficier du chômage partiel. Pourquoi y aurait-il une voie de secours pour les uns et pas pour les autres ? Les employeurs prennent un risque à s'emparer un peu vite du cas de force majeure. Si cette condition n'est pas retenue par les juges, ils devront, en plus des dommages et intérêts, payer les salaires qui sont dus jusqu'à la fin du CDD.
On reste dans l'actualité justice, Sandrine, avec cette décision importante du tribunal de commerce de Paris qui condamne l'assureur AXA à indemniser un restaurateur pour la perte d'exploitation qu'il a subie. On l'a entendu dans les journaux de France Inter. Est-ce que ce jugement peut faire jurisprudence ?
Alors, la bataille juridique n'est pas terminée, AXA a fait appel, un expert judiciaire doit fixer le montant de l'indemnisation qui pourrait dépasser le million d'euros pour la fermeture de plusieurs établissements du restaurateur Stéphane Manigold. D'un côté, AXA considère qu'il ne s'agit pas d'une fermeture administrative imposée par la police ou l'hygiène et qu'il n'a donc pas à couvrir la perte d'exploitation. Stéphane Manigold juge au contraire qu'un gouvernement qui ordonne de fermer, c'est une décision administrative et qu'il doit être couvert par son contrat qui prévoit cela. Les magistrats trancheront, mais cette première manche remportée par le restaurateur, c'est une sacrée brèche pour tous ceux qui ne savent pas quand ni dans quelles conditions ils pourront rouvrir.
Et la restauration encore avec cette question d'Isabelle qui a télétravaillé pendant le confinement et elle n'a plus reçu de ticket restaurant. Est-ce que son employeur a le droit, il peut les lui retirer comme ça ?
Non, absolument pas, Isabelle. L'entreprise doit continuer à vous verser des tickets resto. Le télétravail, c'est du travail et vous mangez toujours, même si c'est à la maison derrière votre ordi. En revanche, l'employeur n'est pas obligé de maintenir ces tickets resto pour les salariés en chômage partiel.
Alors, on part à l'étranger, en Nouvelle-Zélande, le pays qui veut instaurer la semaine de 4 jours pour relancer l'activité touristique. Chloé vous demande, et pourquoi Sandrine Foulon, nous, on ne ferait pas pareil ?
Eh bien, ce serait une excellente idée, Chloé. La première ministre néo-zélandaise a raison de réduire le temps de travail. C'est sans doute bon pour le tourisme, mais c'est aussi une occasion de mieux partager l'emploi, surtout quand le chômage décolle. Défiscaliser les heures sup ou faire travailler plus ceux qui ont déjà un boulot, c'est le plus sûr moyen de faire grossir les rangs de Pôle emploi.
Ah, ça, c'est un bon sujet, en tout cas pour le débat éco. Allez, on continue avec le chômage qui menace les jeunes. Cette semaine, Alain Grisé, le président de l'UDP, le syndicat patronal des artisans, a proposé que les entreprises qui accueillent un apprenti n'aient plus rien à payer pendant un an. Il était sur la chaîne parlementaire, on l'écoute.
Il faut passer un message très fort et très rapide. Pendant un an, que vous ayez les apprentis présents ou que vous en ayez un nouveau, pendant un an, c'est gratuit pour l'entreprise. Il n'y a rien à payer. On constate qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont prêts aujourd'hui à venir en apprentissage. Et il y a un risque d'avoir des jeunes et puis pas d'avoir d'entreprise. Et donc nous, on est favorable à ce qu'on puisse augmenter la période pendant laquelle le centre de formation pourra prendre le jeune, même s'il n'a pas le maître d'apprentissage. Qu'on n'envoie pas ces jeunes en dehors du système, et surtout, que ce soit ceux-là ou les autres, il ne faut pas qu'on fasse une génération de sacrifiés.
Des apprentis gratuits pendant un an. Sandrine Foulon, est-ce que ça nous éviterait une génération sacrifiée ?
Bon, Alain Grisé a dû lire les excellentes études du CEREC qui comparent les générations de jeunes qui entrent sur le marché du travail. Ils sont en moyenne 700 000 tous les ans. Chercher son premier boulot pendant ou après une récession, c'est pas l'idéal. Plus que d'autres, les jeunes qui ont commencé en 2010 portent les cicatrices de la crise financière en termes de qualité d'emploi et de niveau de salaire qu'ils doivent rattraper. Alors c'est certain, favoriser l'apprentissage est une bonne solution, mais ça n'a jamais été un remède miracle. Même si demain, ces apprentis était gratuit, c'est-à-dire que l'État accepte de les prendre totalement à sa charge, il n'est pas sûr du tout que ça fonctionnerait. Une entreprise ne recrute un alternant que si elle a du boulot à fournir. Elle reçoit d'ailleurs pour ça une aide de 4000 euros la première année. Ce qu'on entend aussi dans ce que dit Alain Grisé, c'est que la survie des CFA, les centres de formation des apprentis, est en train de se jouer. Sans apprentis, certains pourraient fermer. Ouais. Le problème, c'est qu'avant la réforme de la formation professionnelle, les régions pouvaient compenser les périodes de crise, les vaches maigres. Quand les CFA ne faisaient pas le plein, elles mettaient au pot. Aujourd'hui, les CFA sont payés au contrat d'apprentissage effectif. C'est devenu la loi du marché. Elle est dure et pas forcément juste pour les apprentis et leurs centres de formation.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Vous pouvez continuer à lui écrire, lui laisser toutes vos questions dans la boîte mail du Mag Éco. Je vous rappelle l'adresse onarretepaslecho@radiofrance.com. Toujours tout attaché, toujours tout en minuscules, ni accent, ni apostrophe.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bonjour Joanne Sfar.
Bonjour.
Joanne Sfar, le dessinateur, le romancier, le réalisateur, le scénariste, et puis le père du chat du rabbin, bien sûr. Mais ce matin, c'est encore une autre casquette que je vais vous faire revêtir. C'est plutôt président d'honneur de la Ligue des auteurs professionnels que je m'adresse. Les auteurs, 270 000 personnes dans le pays, peuvent être, comme vous, des dessinateurs, mais ils peuvent être compositeurs, graveurs, peintres. Ce sont en fait des créateurs et... Joanne Sfar, le confinement, eux aussi, ça les a beaucoup fragilisés.
Oui, d'abord parce que, moi je parle plutôt pour la filière livre, mais parce que toute la filière livre a été mise à mal. Il faut rappeler que les libraires sont des gens qui ont très peu de marge. Il faut rappeler que les éditeurs, même les plus gros, sont des structures très fragiles et que les deux ou trois mois qu'on vient de vivre peuvent mettre par terre toute cette industrie. Et par ailleurs, il y a le statut des auteurs qui est très particulier. Et depuis 30 ans, à chaque fois qu'on aide le livre, on s'imagine qu'on aide les auteurs et ce sont parfois deux sujets un petit peu différents.
Pourquoi est-ce que quand on aide le livre, quand on met 5 millions d'euros là, apportés par le Centre National du Livre, c'est dans le plan culture, pourquoi est-ce que ça ne va pas aux auteurs? Qu'est-ce qui se passe?
Parce qu'en fait, personne ne sait trop où nous mettre et personne ne sait définir notre statut. On a le triste privilège d'être la seule profession qui n'élit pas ses représentants parce qu'il y a des organisations kakoshim tenez, par exemple, il y a des éditeurs qui siègent au directoire des organisations qui sont censées représenter les auteurs. C'est complètement absurde. C'est comme si des auteurs siégeaient au SNE, au Syndicat National de l'Édition. Donc
vous voulez dire que c'est une profession pas organisée? Qui n'est pas organisée.
C'est une profession qui a été organisée il y a très longtemps, de manière extrêmement paternaliste. Et aujourd'hui, que les auteurs se réveillent et disent « Attendez, on a quand même un métier, on a quand même droit aux mêmes avantages et aux mêmes choses que les autres employés dans le pays », il y a des gros coups de frein. Est-ce qu'ils sont paternalistes? Est-ce qu'ils sont corporatistes? Nous, ce qu'on a vu, c'est que le gouvernement actuel est celui qui, bizarrement, nous a le plus écoutés depuis très longtemps, et celui qui en même temps a le moins agi. Donc on est vraiment touché parce que on nous a fait croire pendant un moment qu'on nous écoutait. Le sentiment que j'ai, et là je parle uniquement pour moi, c'est que les instances gouvernementales ont essayé d'agir et ont été stoppées net par les groupements qui sont censés nous représenter et qui nous représentent bien mal, en fait.
Alors, en effet, ça, c'est une affirmation sévère.
Je peux le dire très simplement. Il y a des organismes comme la Société des gens de lettres qui sont censés représenter les auteurs et qui, en fait, parlent pour la filière livre dans son ensemble ou pour les éditeurs. Ils touchent parfois d'énormes sommes d'argent qui ne vont pas aux auteurs. Et en fait, on n'est pas représentés. La Ligue des auteurs là dont je parle, elle a été créée de manière très 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 amateur il y a quelques années. On n'a pas de subsides, on se débrouille comme on peut. Il y a vraiment une, et tout le monde le voit, que ce soit les affaires sociales, la culture, quiconque se penche sur notre cas dit oui, vous avez raison, c'est absurde, oui, ça n'a pas de sens. Mais pour faire bouger les choses,
mais qu'est-ce qu'il faudrait?
Il faudrait des... va déplaire à beaucoup de monde et ça n'arrivera pas. Je suis un très très mauvais représentant parce que je suis absolument certain qu'il ne se passera rien. Je pense, je l'espère, que l'administration va tout faire pour aider la filière livre, parce que ça c'est quelque chose de vital, et je suis également certain qu'ils feront rien pour sortir les auteurs de là où ils sont en ce moment, malgré leurs promesses.
Ça veut dire
donc
que les auteurs...
Je suis un très mauvais militant.
Mais surtout vous êtes très pessimiste, Johan Svar, alors qu'on vous connaît si lumineux, mais là sur ce sujet-là, vous êtes dans le concret, ça veut dire que là en ce moment, pendant le confinement, les auteurs, il y en a beaucoup qui ont des problèmes d'argent, ils n'ont pas droit, par exemple, au fonds de solidarité, ils n'y touchent pas. C'est pas les intermittents, comment ça se passe?
Ils sont certainement pas intermittents. On nous a promis qu'on aurait droit à ceci, à cela. Les sommes ont été allouées aux organismes dont je viens de parler, c'est-à-dire des organismes qui sont censés ensuite les redistribuer aux auteurs et qui ne redistribuent rien du tout. Les organismes en question ont parfois des hôtels particuliers dans le centre de Paris. Enfin, vous voyez. Allez pas croire que j'espère quoi que ce soit. Je n'espère vraiment rien. Pour une raison simple, c'est que depuis 2 ans, on attendait un rapport formidable qui est sorti pour le Festival d'Angoulême, qui s'appelle le rapport Racine, et qui comportait exactement tout ce qu'il fallait. Pour améliorer notre profession, pour la prendre en compte, etc., etc. Dès sa sortie, il a été torpillé et il est aujourd'hui disparu et sous le boisseau. Donc il y a eu une vraie volonté de la part du ministère de la Culture et du gouvernement de prendre en compte la situation des auteurs. À la seconde où ils l'ont sorti, alors est-ce que ce sont les éditeurs, est-ce que ce sont nos représentants, est-ce que ce sont les organismes de gestion comme la GESA qui depuis 40 ans avait oublié de nous faire cotiser pour la retraite, qui ont agi par derrière, mais ce rapport est aujourd'hui enterré. Donc je ne sais pas si vous trouverez aujourd'hui des auteurs qui ont de l'espoir dans ce domaine-là. Ça, à leur décharge, ça a toujours été des métiers impossibles, des métiers d'auteur.
Vous êtes victime d'une certaine... En fait, on imagine l'auteur qui travaille sous sa mansarde et qui est peut-être même heureux du confinement pour avoir tout le temps de se consacrer à sa passion. C'est peut-être cette image-là dont vous êtes victime aussi.
C'est très beau et ce sont les métiers les plus formidables au monde, mais pour autant ce sont quand même des métiers. Il faut savoir que plus de 40% des auteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ce sont des gens qui en général ne prennent pas de retraite, ne prennent pas de vacances, sont très mal assurés socialement parce qu'ils savent pas s'y prendre ou ils savent pas à quoi ils ont droit. Et c'est pas normal. C'est pas normal que dans un pays tellement au fait de la culture où le président a la culture à la bouche en longueur de temps, il y ait si peu de prise en compte. C'est pas vrai. Il y a une réelle prise en compte. Ils savent très très bien ce qui nous arrive et ils voient très bien à quel point ce serait casse-pied de remettre ça en cause parce qu'il y aurait beaucoup de gens qui seraient énervés au sein même du monde culturel. C'est ça qui est paradoxal. Je parle d'organismes qui sont censés nous représenter, qui existent depuis très longtemps, qui n'ont pas envie de se remettre en question et qui se remettront pas en question si l'administration ne les y force pas.
C'était le coup de gueule de Johan Svar ce matin. Merci Johan Svar.
Merci à vous.
Oui, d'avoir été avec nous, parce qu'en plus je sais que vous êtes un jeune papa très occupé. Alors je vous souhaite un excellent week-end.
J'ai fermé la porte pour qu'il n'y ait pas de chien et pas d'enfant à l'entrée en direct sur France Inter.
Vous étiez tout seul avec le bébé, c'est ça? Tout seul avec le bébé? Oui. Passez un très bon week-end, Johan Svar.
Au revoir.
sauvage.
Sunny Afternoon, allez, on touche à la fin de cette deuxième heure. C'est une façon d'atterrir en douceur.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Notre dernier arrêt, voici la tribune où chaque samedi nous invitons économistes, intellectuels, chercheurs, chercheuses à partager son idée pour repenser la vie post-crise. C'est le moment de penser en dehors de la boîte et de notre invité. Ce matin, je vous dirais que ça fait plus de 25 ans qu'elle appelle à réinventer le travail. Oui, ce travail que la crise sanitaire remet en question, qu'il s'agisse du constat de l'utilité de certains métiers pourtant dévalorisés, des métiers essentiels, qu'il s'agisse du boom du télétravail ou à venir de la remontée du chômage. Elle est au bout du fil, la directrice du laboratoire de sciences sociales de l'université Paris-Dauphine, également professeure de sociologie, Dominique Méda, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Dominique Méda, votre idée pour repenser le monde, c'est de mettre au service de l'emploi la reconversion écologique. Et vous dites bien reconversion. Expliquez-nous.
Alors, je parle en effet de reconversion écologique et pas seulement de transition énergétique, comme on le dit souvent, parce que je veux mettre en évidence l'ampleur des changements dans lesquels nos sociétés doivent s'engager pour faire face à la crise écologique. Parce que cette crise écologique, elle sera beaucoup plus grave que la crise sanitaire qu'on traverse aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nos capacités de production, nos réseaux d'énergie, de communication, nos infrastructures, aujourd'hui, elles n'ont pas été atteintes, mais la crise climatique, elle, avec ces cyclones, ces incendies, ces inondations, ces sécheresses, elle le fera. Donc, c'est dès maintenant, c'est tout de suite qu'on doit organiser finalement ce qu'on appelle une grande bifurcation, qu'on doit rebâtir complètement nos économies. Et ça signifie, hein, clairement, mettre en œuvre d'urgence tout de suite, non pas une relance brune, c'est-à-dire une relance de l'activité qui entraînerait une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, mais une relance verte, un investissement massif dans la transition, dans la transformation de nos économies. Et on sait ce que ça veut dire, hein, ça veut dire rénovation thermique des bâtiments, renouvellement des infrastructures, filières de réparation, de recyclage. Et donc la bonne nouvelle, j'en viens au travail et à l'emploi, la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça doit permettre de créer des emplois. Autrement dit, si on se lance dès maintenant dans cette grande reconversion écologique, on aura besoin de plus de travail humain pour reconstruire nos bâtiments, pour reconstruire nos villes, pour développer une agriculture biologique, pour recycler, pour réparer. Donc, il faut qu'on développe des filières qui permettront une production de biens et services durables. Il faut relocaliser, on nous l'a dit beaucoup, on sait que les Français ils sont prêts. Ça permettra de créer de nombreux emplois non délocalisables qu'on pourra mettre au service de nos besoins sociaux. Et si on est très, 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 très malin, en plus de tout ça, on pourra revoir en profondeur nos organisations du travail et les démocratiser.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Comme on l'a proposé dans un manifeste qu'on a publié le week-end dernier, signé par 5000 universitaires dans le monde entier.
Mais alors justement, je l'ai lu, démocratiser l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire, Dominique Méda ?
Ça veut dire revoir l'équilibre des pouvoirs dans toutes les organisations et donner à ce que nous appelons les apporteurs de travail, hein, ceux qui mettent finalement leur vie, leur corps, leur engagement au service de leur entreprise. Donc donner aux apporteurs de travail les mêmes pouvoirs, la même participation à la décision que les apporteurs de capital. Alors ça paraît un peu révolutionnaire, bien sûr, hein, mais c'est bien faire en sorte que les grandes décisions d'une entreprise ne soient pas prises seulement par les actionnaires, par les apporteurs de capitaux, mais aussi par ceux qui apportent leur travail.
Mais alors ça, Dominique Méda, on va vous dire que c'est quand même une belle idée de sociologue et qu'en attendant, les entreprises, elles sont dans un univers concurrentiel où là, on a des vrais soucis, les coûts, les budgets, la rentabilité. Toute cette dimension de performance dans une économie mondialisée, la révolution, vous dites révolution verte, démocratisation de l'entreprise, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de l'oublier ?
Non, j'oublie pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, la performance des entreprises et d'ailleurs des États eux-mêmes, hein, elle doit être mesurée de façon radicalement différente. Je ne sais pas si vous vous souvenez, alors avec mes collègues Florent Janicatrice et Jean Gadret, on travaille depuis très longtemps là-dessus, sur les grands indicateurs comme le PIB qui guide nos comportements et nos politiques. Nous, ce qu'on dit, c'est que à la fois pour les entreprises et pour nos pays, on doit changer d'indicateur de référence et on doit changer d'outil de mesure, en quelque sorte. Mmh. C'est-à-dire que la performance, maintenant, elle doit prendre évidemment en considération tous les effets néfastes que nos comportements ou nos pratiques de production peuvent avoir sur l'environnement ou sur la cohésion sociale. Donc ça nous oblige à tout changer d'une certaine manière, à changer nos référentiels, quoi. Ouais. Et du coup, la performance, elle est calculée de façon radicalement différente. Et donc, je pense que la nouvelle conception du progrès, en quelque sorte, qu'il faut que nous déployons dans le cadre de cette reconversion écologique, eh bien, elle va être convergente avec cette nouvelle conception de la performance des entreprises.
La directrice du laboratoire de sciences sociales de Paris Dauphine, Dominique Méda, est montée sur la tribune du Mag'Éco. Merci d'avoir été avec nous, Dominique Méda.
Merci beaucoup, merci à vous.
Et je signale votre tribune ce samedi dans les colonnes du Monde et sur la nécessité de passer à une révolution verte. Allez regarder, auditeurs, auditrices, la une de The Economist cette semaine, qui est pourtant pas la même maison que celle de Dominique Méda. Voilà, le Mag'Éco c'est terminé, on baisse le rideau. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, un excellent week-end à tous.
SNCF Info Voyageurs. Afin de limiter la circulation du Covid-19 et pour votre sécurité, SNCF prend les engagements en train, tous responsables. Vous pouvez compter sur nous pour nettoyer régulièrement les espaces publics en gare. Nous comptons sur vous pour appliquer systématiquement les gestes barrières. Retrouvez l'ensemble des mesures mises en place pour votre sécurité sur l'appli SNCF. SNCF, en train, tous responsables.
Mercedes-Benz.
Depuis des semaines, vous êtes ce prof de maths du dimanche, ce chef cuistot aux mille et une recettes à base de pâtes, ou ce magicien qui transforme le salon en salle de sport. Mais ça y est, vous pouvez reprendre la route et enfin vous faire plaisir. C'est le bon moment. Votre distributeur Mercedes-Benz peut à nouveau vous accueillir pour vous faire profiter d'offres exclusives sur toutes les Mercedes neuves et d'occasion et vous proposer des solutions de financement flexibles. Vous avez assez attendu, non? Alors rendez-vous dès maintenant chez votre distributeur pour en savoir plus.
Et voilà, c'est la fin du confinement. Et chez Atoll, on sait que vous vous êtes essayé à différents métiers, avec plus ou moins de réussite. Prof de maths et d'histoire, chef à domicile, coach sportif et même coiffeur. Oh, ça va, ça repousse. Mais il y a un métier que vous n'avez pas pu pratiquer, c'est opticien. Alors chez Atoll, nous vous offrons un test de vue pour refaire vos lunettes rapidement, avec des verres Essilor. Atoll, mon opticien. Ce test n'est pas un examen médical, voire condition sur site internet.
Je vous signale qu'à midi, dans le grand face-à-face d'Ali Badou, c'est Esther Duflo, la prix Nobel d'économie, qui est l'invitée. Mais pour l'instant, il est 11h.